Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Jocelyne Moussaou.
Miliciens neutralisés par les FARDC au cours des affrontements hier contre la coalition Codeco et FPIC à Bombi dans les territoires de Djougon, Ituri. Trois civils sont également morts pendant les combats. Ce bilan est encore provisoire selon le porte-parole de l'armée en Ituri. Rapport de l'IGF contre 5 unités de gestion du ministère de la Santé. Le projet de développement du système de la santé PDS vient de réagir. La structure rejette en bloc toutes les allégations de détournement portées à sa charge. Le professeur Alphonse Maindo, directeur des Tropenbos RDC, notre invité ce midi. Tropenbos accompagne les paysans à acquérir des titres de concession forestière dans la province de Latchopo. C'est dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. 16 miliciens ont été neutralisés par les FARDC au cours des affrontements dimanche contre la coalition Codeco et FPIC au village d'Abombi, à environ 75 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Des sources concordantes signalent que trois civils sont également morts pendant les combats entre les deux parties. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que ces bilans sont encore provisoires car les opérations militaires se poursuivent dans la zone. Isaac Raymond.
Des miliciens de la faction de la Codeco dénommée Bon Temple de DSC de la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC ont attaqué dimanche vers 3h du matin la position de l'armée au village d'Andissa dans le secteur de Banyarikilo. Dans la foulée, un militaire et des civils, une femme et un enfant ont attrapé des balles et sont morts sur place, affirment des sources de sécurité. Des FARDC sur place ont réussi à repousser l'ennemi grâce à leur supériorité numérique. Les affrontements ont duré environ 3h jusqu'au matin. L'armée dresse un bilan provisoire de 16 miliciens tués et plusieurs autres qui sont blessés. Selon les porte-parole des FARDC en Ituri, les opérations de ratissage se poursuivent pour démanteler ces groupes armés. Depuis ce lundi matin, calme précaire s'observe dans ces milieux. Certains habitants qui ont fui dans la brousse commencent à regagner leur domicile. Le trafic a repris normalement sur les tronçons Bounia-Mungwalu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
5 personnes, dont un policier tué par balle hier dimanche par des soldats FARDC à Luna, à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur la route nationale numéro 4. Une incompréhension entre le commandant des troupes en partance pour l'Ituri et les agents commis au poste de contrôle de Luna serait à la base de cet incident dramatique, souligne le porte-parole des opérations Sokola 1. Le récit de fait avec André Kitenge.
L'incident a eu lieu aux environs des 10h du matin dimanche au poste de contrôle de Luna à la limite des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, il s'agit des soldats FARDC ayant quitté Beni pour Bounia dans le cadre des opérations contre les ADF qui ont ouvert le feu sur ordre de leur commandant. Il y a eu 3 personnes tuées sur le coup, notamment un policier et 2 civils ainsi que des blessés. 2 parmi les blessés sont morts plus tard suite à leurs blessures. Le capitaine Anthony Mwalushai explique.
L'incident est arrivé au moment où il y a un colonel qui convoyait le militaire pour aller dans les opérations qui sont à Bounia. Très tôt matin, il a pris le convoi vers la direction Bounia. Arrivé au niveau de Luna, de la barrière, il y a eu des incompréhensions. Il a donné l'ordre et ses militaires ont ouvert le feu. Mais malheureusement, ils ont ouvert le feu en désordre. Et nous avons déploré sur place la mort d'un policier. Et aussi du côté civil, nous avons déploré 2 morts.
Cette situation a provoqué une vive tension dans la région. Des habitants qui croyaient à une nouvelle attaque des ADF ont commencé à vider les lieux. De son côté, l'armée a annoncé l'arrestation de l'officier militaire ayant donné l'ordre de tirer sur instruction du commandant des opérations Sokola 1, le général de brigade Berthe Poutela. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la situation est étendue. C'est lundi matin dans l'agglomération de Nyabiondo, située à une 20aine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu du territoire de Masisi. Cela fait suite aux affrontements qui ont opposé la nuit dernière les FARDC au présumé Mai Mai du groupe Nduma pour la défense du Congo, RDC rénové de Guidon. Plusieurs villages se sont vidés de leurs habitants dans la zone. Bernard Danyangi nous fait le point.
C'est autour de minuit que les hommes de Guidon, venus probablement du village Mutongo dans le territoire voisin de Walikale, auraient attaqué simultanément les positions des FARDC dans le village Luibo, Kinyumba, Kilambo et Lokweti, autour du village de Nyabiondo, disent les sources administratives locales. Jusqu'à l'aube, des tirs étaient encore entendus dans la zone, précisent ces sources qui confirment que l'armée a toutefois repoussé l'attaque. Les hommes de Guidon se seraient repliés vers Katiri, sur les limites du secteur Osobanyongo, territoire de Masisi, et le groupement Iyana, territoire de Walikale. Le député provincial Alexis Baunga, élu dans la zone, précise que, depuis plus de 3 jours, des alertes sur l'imminence de cette attaque étaient déjà données. Ce qui fait, selon lui, que des habitants des 4 villages s'étaient déjà déplacés vers Nyabiondo, Bukombo et Kachebere sur la route Walikale-Masisi, excepté les habitants du village Myumba, non lu de Luibo, qui, eux, se sont déplacés ce lundi matin, dit-il. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
En bref, les acteurs de la société civile ainsi que les fonctionnaires délégués du gouverneur dans la région de Ndjiapanda, en territoire de Lubero, se disent préoccupés par les incendies récurrents ces derniers jours des postes de police dans la zone. Le dernier cas en date est l'incendie du poste de police de la localité de Mayeba samedi 12 février. Ils demandent aux autorités compétentes de se pencher sérieusement sur la question pour mettre fin au phénomène. Dans la province du Sankoro, le conflit foncier fait encore des victimes dans les territoires de Lodja. 3 personnes sont mortes le week-end dernier, 25 autres blessées grièvement, plus de 200 maisons incendiées dans les localités de Mongo et Vungé et près de 100 ménages déplacés vers la cité de Lodja. Tel est le bilan provisoire des affrontements qui se poursuivent en ce moment entre les habitants des localités du secteur de Nambelou à ceux du secteur de Vungé dans le groupement de Koko à plus ou moins 10 km de Lodja Centre. L'administrateur du territoire de Lodja demande aux acteurs politiques vivant à Kinshasa de ne pas instrumentaliser la jeunesse. La société civile Force Vive Rénovée, par contre, souhaite que la lumière soit faite sur ce vieux conflit foncier. Des explications avec Esther Ndalafina.
La situation sécuritaire est toujours précaire dans les localités du secteur de Vungé et ceux du secteur de Nambelou. Les affrontements touchent plus d'une dizaine de localités. Plusieurs ménages sont en ce moment en fuite vers Lodja et passent la nuit à la belle étoile, affirment les sources sur place. L'administrateur du territoire de Lodja attribue cette situation à l'instrumentalisation de la jeunesse par les acteurs politiques vivant à Kinshasa, Médar et Longué.
Le bilan continue à un moment donné à se faire augmenter. Les politiciens sont toujours prêts à instrumentaliser la jeunesse. Plus il y a le sang qui coule, plus c'est ça, ça leur gloire. Je demande encore une fois à la justice de faire le travail.
André Djongé, président de la société civile rénovée de Lodja, demande au gouvernement de punir les auteurs de ces atrocités.
Au gouvernement central, de diligenter une commission d'enquête afin de déceler le mobile et de connaître les auteurs en les déférant devant les responsabilités.
D'après les sources sur place, les agents de l'ordre déployés pour s'interposer contre les protagonistes se sont lancés au pillage des bétails de la population déjà meurtrie par les atrocités. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'IGF dresse un rapport accablant contre 5 unités de gestion du ministère de la Santé. Près de 420 millions de dollars concernés par cette mégestion au sein du programme élargi de vaccination, du projet de développement du système de la santé, de la cellule d'appui et de gestion financière, du programme national de santé, de la reproduction ainsi que du fonds de développement des services de santé. Le projet de développement du système de la santé PD vient de réagir à ce rapport dans un communiqué signé par son coordonnateur national, Dr Dominique Baabo Okoubouye, et dont copie est parvenue à Radio Okapi. Le PDS rejette en bloc toutes les allégations des détournements portés à sa charge par l'équipe de l'IGF. Les détails de ce communiqué avec vous, Esther Ndalafina.
Concernant les dépenses sans justificatif effectuées par le projet de développement du système de la santé de l'ordre de plus de 7 millions de dollars américains pour le financement IDEA en 2021, le PDSS explique pour sa part que les pièces originales de ces dépenses existent et sont disponibles dans les établissements publics en province. Quant à l'existence des dépenses de l'ordre de 2 316 000 dollars qualifiées inéligibles par la Banque mondiale et remboursées aux bailleurs par le gouvernement de la RDC sans que les responsabilités sécurité ne soit partagée au cours de la période de 2016 à 2019 et pour plus de 70%, le PDSS indique que cette situation concerne les anciens responsables de cette coordination. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'IGF revient sur la restitution par le PDSS au ministère de la Santé de la somme de $224 000 destinée à l'achat des 3 ambulances médicalisées sans que la coordination de ce projet ne soit informée. Le PDSS dit avoir retourné l'argent au ministère étant donné que les ambulances n'avaient jamais été achetées. Il demande à cet effet à l'IGF d'obtenir des explications auprès du ministère de la Santé. Quant aux irrégularités dans la passation des marchés publics et la non-application des sanctions contre les fournisseurs défaillants ou ayant livré en retard les intrants, pour le PDSS, les explications du retard fourni par les fournisseurs ne leur permettaient pas de prendre des sanctions à leur égard.
Au Sud-Kivu, le directeur de la province éducationnelle Sud-Kivu 2 est suspendu de ses fonctions depuis le week-end dernier. Décision prise par le secrétaire général de l'EPST à Kinshasa. Il est reproché à Albert Bopé-Piema le fait d'avoir exigé le paiement de 1000 francs congolais par élève pour la construction de ses bureaux dans les territoires d'Uvira et Fizi. Le point avec Cynthia Bachizi, Nabizana.
Selon le directeur de cabinet du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, la perception de ces 1000 francs congolais pour la construction de ces infrastructures va à l'encontre de la politique de la gratuité décrétée dans les écoles primaires. Professeur Eddy Mwanzo.
La suspension, c'est par rapport au régime disciplinaire. Donc, il a 20 jours pour fournir les explications. Et à l'issue de ces 20 jours, l'autorité verra s'il faut le déplacer de là ou pas.
Dans l'entretemps, le prophète d'Albert Bopé-Piema est revenu sur sa décision dans une note parvenue à Radio Okapi ce lundi 14 février. Il a demandé au chef d'établissement de sursoir la collecte de ce 1000 francs congolais auprès des élèves. Mais c'est un faux fouillant pour le professeur Eddy Mwanzo.
C'était un pire appel à l'ordre, il a voulu anticiper, mais pour nous c'est un repentir tardif. Une autorité ne doit pas. Et là, j'ai semé la zizanie en négligeant aux parents, surtout avec la gratuité, de payer cette somme-là. Et l'effet déjà dessiné, c'est une faute grave pour une autorité au niveau provincial. Et voilà pourquoi on l'a sanctionné.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Avant l'actualité internationale, cette note quelque peu tendre, c'est lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux, dit-on. Une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, mais elle connaît un réel développement dans le monde, puis dans notre pays, la RDC, depuis les années 90. La Saint-Valentin, une manière d'exprimer aussi son amour au-delà des paroles. C'est comme ça, en tout cas, que Jean-Louis Balibunga, habitant de Calémie, résume la fête des amoureux. À 68 ans, il vit depuis 74, date de son mariage avec Joséphine Manganza, d'abord à Kabambaré au Maniema, puis à Kalemie dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, le foyer de Jean-Louis et Joséphine compte 10 enfants, dont un prêtre. Je vous propose de découvrir ce couple dans le reportage de François-Xavier Mibé.
Le coup de cœur de Jean-Louis Balibunga sur Joséphine Mangaza est parti du village de Mupapaye en territoire des Kabambaré. C'était pendant les grandes vacances de Joséphine Mangaza, elle qui étudiait à Lulingu, 100 km de Shabunda. Nous sommes en province du Maniema. De passage au village plus d'une fois, parce qu'enseignant dans les villages voisins, Jean-Louis Balibunga s'est arrêté, le regard dans les yeux de Joséphine, et tout est parti de là. C'était mon choix. Il y avait beaucoup de filles, mais je ne voulais pas avoir une femme analphabète. Vivre en couple, c'est vivre chaque jour de la vie, la Saint-Valentin au-delà de paroles. C'est ce que dit Joséphine Mangaza. Je l'aime toujours, quelles que soient les difficultés. Et nous savons nous pardonner mutuellement. La fidélité apporte la paix. Être transparent, éviter les indiscrétions, mais apprendre à régler les problèmes dans le foyer. L'extérieur ne résout jamais les problèmes du foyer. Julie Nkulubalibunga, l'une des filles du couple, s'est dit aujourd'hui heureuse d'avoir des parents qui s'aiment et qui continuent à perpétuer la Saint-Valentin dans leur vie de chaque jour.
Ça me fait du bien, la fierté aussi. J'ai une très bonne éducation de mes parents. Moi aussi, je vais appliquer ça.
Kalemi, François Djabemi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La communauté internationale au chevet de la Libye, le pays a deux premiers ministres, Abdel Hamid en poste depuis un an et l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, a choisi jeudi dernier par le Parlement de Tobrouk, une situation qui inquiète alors que la transition n'en finit pas de durer et qu'on attend encore des élections après le scrutin avorté de décembre 2021. Hier dimanche, Stéphanie Williams, conseillère spéciale de l'ONU pour la Libye, a rencontré les deux hommes afin d'éviter une escalade.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, Tropenbos RDC sensibilise les communautés paysannes à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. C'est dans cette optique que cette organisation accompagne les paysans notamment à acquérir de titres de concessions forestières dans les différentes entités de son intervention. Qu'attend-on par une concession forestière? Quelle est son importance et quel rôle peut-il jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos RDC, s'entretient à ces sujets avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Dans votre travail, vraiment, vous faites la promotion de la foresterie communautaire. Qu'entend-on par la foresterie communautaire et quelle en est son importance?
La foresterie communautaire, c'est une initiative que le gouvernement congolais vient de mettre en place il y a quelques années seulement. Mais ce n'est pas une nouveauté parce qu'en réalité, c'est tout simplement une reconnaissance de ce que les communautés locales ont toujours fait. C'est-à-dire que les communautés locales sont des gestionnaires des forêts. Alors, et il s'agit tout simplement ici de leur reconnaître des droits qu'ils ont pour une gestion durable des forêts. Alors, ils deviennent donc propriétaires. La loi congolaise dit que les terres et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc, les communautés, même si vous avez des revendications coutumières sur tel ou tel espace du territoire national, ce n'est pas votre propriété. Or, avec la concession que vous allez avoir, qui est délivrée par l'État congolais, par le gouverneur de province à titre gratuit et perpétuel, donc vous devenez propriétaire, même l'État, s'il veut faire des choses sur cet espace-là, doit faire une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique avec des indemnisations qui vont avec.
Professeur, quel est le sens de cette foresterie communautaire, si vous voulez? Quel en est l'objectif?
Le sens de cette foresterie communautaire, parce qu'il y a une stratégie nationale qui a été mise en œuvre, ça vise à assurer le développement local de communautés forestières pour que ces communautés-là puissent véritablement profiter des forêts dont ils ont la jouissance de par la coutume et qui permettent de leur développement. Et donc, pour ça, qu'ils le gèrent durablement et qu'ils puissent en tirer les meilleurs profits et en les sécurisant de la même manière contre les prédations qui proviendraient soit des acteurs étatiques ou des acteurs privés.
Et c'est pour cette raison que vous tenez à l'acquisition des titres forestiers au profit des communautés locales.
Oui, exactement, parce qu'on voit de plus en plus une espèce de boulimie forestière par des élites qui récupèrent des grandes concessions, surtout autour des grandes villes. Ils vont en faire après des lotissements et au détriment de communautés qui risque de manquer des terres dans les années à venir. Alors donc, pour nous, c'est une manière aussi de sécuriser les terres pour les communautés locales, pour qu'elles aient des forêts et pour continuer à faire les activités.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dégradation des forêts. Pouvons-nous dire que c'est aussi une des solutions à la problématique du réchauffement climatique?
Oui, exactement, parce que les communautés ont fait preuve de leur capacité à gérer durablement les forêts. Et nous avons aujourd'hui un défi mondial en ce qui concerne le réchauffement climatique et qui entraîne beaucoup de conséquences avec des pertes de la biodiversité et tout ça. Nous risquons disparaître. Et si on redonne aux communautés ces forêts-là, on a ainsi aussi une possibilité que ces forêts soient mieux gardées, moins détruites, et donc une stabilisation de la dégradation forestière et de la déforestation qui serait bénéfique pour toute l'humanité.
Pour ces communautés que vous êtes en train d'accompagner techniquement, combien ont déjà reçu leur titre forestier et combien en reste-t-il encore?
Alors aujourd'hui, nous sommes heureux que dans l'ex-province orientale, c'est la province de la Tchopo qui a été la première à attribuer les trois premiers titres de concession des forêts communautaires. Nous en avons une chez les Barumbi Tchopo, nous en avons une autre chez les Bampak de Bampondi et une troisième chez les Bampak de Bafamogo. Et en dehors de ça, il y a une dizaine d'autres qui sont sur la table du gouverneur en étude. Et donc je pense que les arrêtés pourraient sortir d'ici quelques semaines ou au plus tard quelques mois. Et en dehors de ces dix autres, donc on aura probablement probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, nous aurons 13 titres de CFSL. Et je pense d'ici la fin de l'année, on aura encore 16 autres que nous sommes en train de faire avec les projets gouvernementaux, programmes intégrés pour la RED+. On a déjà reçu plusieurs demandes. Nous sommes en train de constituer 16 nouveaux dossiers de CFSL. Donc d'ici la fin de l'année, on aura probablement 29 CFSL dans la province de la Tchopo.
Professeur, les forêts doivent être préservées par les paysans. Comment peut-on aider les communautés à exercer moins de pression sur ces forêts quand on sait qu'il n'y a pas d'activité alternative?
Effectivement, beaucoup de gens nous ont souvent demandé, mais comment vous appuyez des activités économiques avec les communautés, tout ça? Vous êtes en train de demander qu'il y ait une meilleure protection de forêt, en même temps vous appuyez des activités économiques, et ça risque pas d'être contradictoire. On dit non, il faut que les populations puissent avoir l'intérêt de garder les forêts debout. Pour que les populations aient l'intérêt de garder les forêts debout, elles doivent donc trouver d'autres alternatives qui leur permettent d'avoir des moyens de subsistance. Et c'est pour ça qu'on fait des activités génératives de revenus. Donc on appuie les gens avec les cultures pérennes, et ces cultures pérennes, on les met pas n'importe où, on les met dans les jachères, dans les zones dégradées pour les valoriser. Après, ça évite donc que les gens puissent continuer à aller ronger dans la forêt primaire, ce qui nous préserve, et les autres forêts secondaires sont en train de se régénérer de manière naturelle.
Professeur Alphonse Mayundo, merci.
Je vous en prie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.